Dziet pa priekšu, brāļa māsa, pavilda malocīdama. Dziet pa priekšu, brāļa māsa, pavilda malocīdama.
Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles.
Kalnu kapu, dažu labu ieleiņu, dažu labu kalnu kapu, dažu labu ieleiņu.
Bonjour, elles en parlent encore, émission de Vie Féminine Bruxelles, tous les quatrièmes samedis du mois, entre 12 et 13 heures. Hélène à l'animation, Tamara à la technique, et nous avons aujourd'hui trois invités, Gertraud, Samira et Lydia. Aujourd'hui, c'est l'actualité, nous traitons d'actualité. Les 162 occupants de la rue Royale ont suspendu la grève de la faim commencée le 1er janvier 2008 suite à l'obtention d'un accord avec le ministère de l'Intérieur. Compte tenu de la proximité géographique de Vie Féminine Bruxelles, mais aussi de la nationale, nous avons suivi cette occupation. Nous avons essayé de répercuter les préoccupations soulevées par les sans-papiers. Vie Féminine s'est engagée tout au long de cette occupation, mais aussi depuis de nombreux mois, à soutenir les femmes déterminées dans ce combat. Aujourd'hui, Elles en parlent encore prolonge la première émission réalisée sur ce thème en juin dernier, Sans papiers. L'émission féminine contemporaine, l'émigration féminine contemporaine recouvre ces questions sur le travail clandestin, la délégation des tâches domestiques et le déficit des services publics. Nous allons en parler pendant une heure avec nos trois invités. Nous avons donc invité Gertraud, animatrice à la Maison Mosaïque de Laeken, Samira, qui était présente à l'occupation, et Lydia, que nous connaissons toutes bien. Alors, je vais d'abord les laisser se présenter.
Samira. Bonjour, je m'appelle Samira. Je suis occupante de rue Royale, au rue Royale, numéro 91. Sans papier.
Bonjour, je m'appelle Lydia. Je suis aussi un migrant clandestin. Mais je connais la vie féminine après de la maison mosaïque de Escarvec.
Oui, bonjour. Moi, je suis Gertraud Langwiesner et je suis animatrice à la maison mosaïque de Laeken, la vie féminine. Et récemment, j'ai aussi fait une petite recherche dans le cadre de mon travail, dans mes études à la FOPES. J'ai analysé un peu le rôle et stratégie des femmes sans papier dans les caires. Et je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler un peu. Voilà. Bonjour.
Bonjour. Nous allons commencer par un rapide aperçu historique. Donc, l'immigration, on connaît ça depuis le début du siècle passé. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une forte immigration, je dirais, économique. C'était la Belgique qui cherchait des ouvriers. Ça a été d'abord beaucoup d'hommes seuls qui sont venus. Au bout de quelques années, ils ont fait venir leurs femmes, leurs enfants. L'immigration a été bloquée en 1974 et dorénavant, pour arriver en Belgique, il n'y a plus que deux solutions si on n'est pas très riche, c'est le regroupement familial et la demande d'asile. Depuis des années et des années, c'est vrai que c'est devenu de plus en plus difficile d'immigrer. À la fin des années 90, maintenant dans les années 2000, il y a un grand mouvement de reconnaissance des droits des clandestins et des sans-papiers. Et puis maintenant, on en arrive à une situation où on se rend compte qu'il n'y a plus que des hommes seuls qui viennent, mais aussi des femmes qui parfois laissent leur famille à la maison. Donc voilà, je voulais vous relancer un peu la balle pour... savoir ce que vous en pensiez.
Oui, c'est vrai. Dans ma recherche, j'ai eu l'occasion un peu d'approfondir cette thématique. C'est vrai ce que tu viens de dire. Il y a un changement dans le regard et surtout dans l'analyse de l'immigration et surtout qu'on constate que les femmes deviennent beaucoup plus visibles dans la migration et surtout qu'on s'occupe et aussi dans la recherche sociale. qu'on s'occupe et on approfondit cette thématique de la migration féminine et on parle d'un changement. Avant, les femmes étaient aussi déjà présentes. Mais maintenant, on parle d'une visibilité des femmes migrantes et surtout qu'on parle aussi d'une, les femmes sont actrices de leur, de ce parcours de migration, qu'elles sont plus simplement qu'elles rejoignent leur mari, qu'on constate aussi dans, selon des statistiques, depuis des années, pendant des années 90, plusieurs mois, que ça a commencé plus fort que les femmes deviennent plus visibles et qu'elles migrent pour améliorer leur situation, les situations familiales, économiques, sociales, par X, Y raisons. Je crois que on peut approfondir après. Mais ça, c'est, et les femmes, et surtout les migrantes savent qu'il y a une possibilité de travail dans différents secteurs de services, dans les services comme dans les cœurs, et que le premier point de départ, c'est vraiment là qu'elles peuvent rentrer. Voilà, et ce sont des emplois souvent très précaires, et ce sont des emplois qui sont dans ces secteurs qu'on voit pas du tout. On peut dire aussi c'est invisible, et surtout quand les femmes travaillent comme nounou, qu'elles prennent en charge des enfants, qu'elles travaillent dans les maisons, plusieurs femmes migrantes travaillent dans les services comme les restaurations, les services érotiques. Voilà, c'est les pleins secteurs, je crois que qui sont occupés, mais on s'intéresse aussi maintenant depuis des années 90 sur ce type de migration, qu'on veut mettre en évidence le rôle des femmes dans les parcours de migration, et c'est qu'on constate aussi le fait que les femmes migrent seules. Par la force de temps en temps, certaines femmes doivent laisser leurs enfants à la maison dans leur pays d'origine, et donc vous pouvez vous imaginer les situations que les femmes, quelles conditions les femmes vivent ici quand elles sont des femmes qu'elles doivent éduquer les enfants par téléphone. Elles ont les contacts par téléphone régulièrement, et je parle dans ma recherche les mères transnationales, et donc dans ma recherche c'est vraiment ça que j'avais envie de mettre, donner la parole à ce type de femmes, mais aussi surtout donner une visibilité à cet changement des migrations qu'on veut pas les voir, parce que on pense toujours que la migration c'est l'homme qui migre et la femme joint son mari, et ça, cette situation a changé quand même un peu.
Semira, moi je voulais te demander à la rue Royale, tout le premier étage est occupé par des femmes. J'aurais voulu un peu savoir si un peu ce que Gertrude vient nous expliquer sur le fait que parfois elles immigrent seules, qu'elles laissent leur enfant à la maison, si tu as pu vérifier ça parmi les occupantes.
Oui, à la rue Royale, au premier étage, il y a des femmes qui ont laissé les enfants à leur payer. Et il y a des femmes qui sont venues avec leurs enfants ici. Ils ont voyagé avec leurs enfants et ils ont laissé aussi leur mari au pays. Et il y a des femmes aussi célibataires qui n'ont pas des enfants. Oui, il y a des femmes célibataires, il y a des femmes avec des enfants, il y a des femmes qui sont venues avec leur mari. Ils ont la famille, toute la famille,
ils sont tous venus ensemble.
Oui, ils sont tous venus ensemble. Et voilà.
Moi, je trouve que c'est déjà, au niveau symbolique, terriblement important que sur les 162 occupants de la rue Royale, il y ait 40 femmes qui étaient là au premier étage.
Oui.
Ça montre bien leur présence dans tout le processus d'immigration. Et toi, Lydia, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça, à la place des femmes sans papier dans la société, par rapport à leur type d'immigration?
En tout cas, pour la femme, c'est tellement très difficile dans le sens des sentiments de laisser ses enfants et son mari dans son pays, à la charge de qui? De la grand-mère. Et c'est vrai qu'une partie des femmes que je suis rencontrées ici en Belgique, ils se sont un peu culpabilisées de faire ce type d'immigration. Pour eux, c'est très dur dans le sens de la maternité, en tout cas. Et c'est vrai, c'est pour eux aussi, c'est une manière d'être déraciné de ses origines. Et on se trouve ici en Belgique un peu perdu parce que c'est vrai que la société est très différente à la ici en Belgique comme dans les pays d'où il vient l'Afrique.
Et je voulais vous demander aussi, est-ce que c'est facile de migrer pour une femme de partir ça a quoi comme implication là-bas et puis ici?
En fait, c'est pas facile. Pour une femme, c'est pas facile du tout. C'est pas la même chose comme en fait, c'est la même chose, mais l'homme, il a plus
de courage.
Même la femme, elle a du courage peut-être plus qu'au niveau de travail et de vivre la femme, en fait, elle peut voyager toute seule. Elle peut travailler. Elle peut construire une vie loin de son pays d'origine. Mais je crois que l'homme, il a plus de cet avantage. L'homme, la femme devant les yeux des gens, quoi. C'est pas question, si je comprends votre question, est-ce que la femme, elle peut?
Je me disais, arriver ici, femme, en étant une femme seule ou une femme avec ses enfants, on doit être soumis à toutes sortes de pressions. Je me disais parfois de la communauté d'origine ou bien ça ne doit pas être facile en tant que femme seule de faire sa place dans une société. Oui, Gertrude.
Oui, je veux dire, c'est les femmes que j'ai eu le contact dans les cadres de ma recherche. C'est vrai, je trouve très intéressant. Je trouvais ça très intéressant, émouvante lors des entretiens quand elles partagent que c'est très très difficile et très déraciné. Moi, donc comme femme migrante, j'ai vécu au début la même chose. Être loin de la famille, c'est vraiment perturbant. C'est très très difficile. Et donc, et surtout quand il y a des enfants ou les maris ou une partie de la famille qu'elles doivent laisser derrière. Et donc, c'est vraiment les émotions, la situation émotionnelle est très très difficile à vivre. Et certaines femmes que j'ai rencontrées qui ont l'occasion de travailler dans les cœurs, qu'elles prennent en charge des enfants, elles disent, mais le fait que je peux travailler, prendre en charge les enfants, je peux donner tout mon amour que j'ai voulu donner à mes enfants, je peux donner ça à ces enfants, ça compense un peu, je me sens à l'aise, surtout avec les enfants, je me sens ici à l'aise, et je prends un peu la confiance, et alors elles sont, les femmes que moi j'ai rencontrées, elles sont beaucoup dans un réseau, parmi les autres femmes migrantes, donc les femmes sans papier, il y a beaucoup de réseaux sociaux, des réseaux par des différentes communautés, elles ont différentes stratégies, qu'elles échangent des informations, comment se sentir mieux. Donc, par le fait du temps, il y a différentes raisons qu'elle réussit un peu mieux vivre leur situation, parce qu'il faut, elles ont des idées, elles n'ont pas eu, certaines n'ont pas eu le choix de quitter leur pays, et donc il faut gérer cette situation le mieux qu'elles peuvent. Mais c'est pas facile de vivre, et donc les femmes, trois femmes que j'ai interviewées parmi les 8, on fait revenir leurs enfants, et puis après c'était mieux pour elles de se sentir mieux et plus plus à l'aise, et ont pu développer plus clairement leur projet de vie qu'elles ont fait imaginer ici en Belgique. Mais elles sont souvent très coincées par leur situation administrative, parce qu'elles sont sans papier, donc elles n'ont pas l'occasion de travailler dans ce qu'elles ont voulu travailler, ce qu'elles rêvent de travailler. Voilà. Elles sont toujours coincées par cette situation administrative.
Ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, elles sont bloquées par rapport à la situation administrative, mais aussi par le fait d'être comme ça en stand-by, d'être ici et les enfants là-bas. Tu dis que quand tout le monde est là, enfin tout le monde, en tout cas les enfants, alors enfin elles peuvent développer un projet de vie même sans papier. Ouais. Ça doit être une grande souffrance.
Oui, non, c'est plusieurs femmes, elles ont vécu, elles vivent ça très très difficile, bien sûr, mais voilà, elles ont des stratégies pour surmonter ça, et donc, et comme Lydia a dit, surtout, quand elles laissent leurs enfants à la maison, les femmes que j'ai eu l'occasion de les rencontrer, elles confient leurs propres enfants à la maman, à la tante, et le mari est absent aussi. Et donc, on voit une inégalité déjà dans le pays d'origine. Et je trouve que ce qui est, pour moi, ce qui m'avait frappé énormément, il y a une inégalité entre les enfants aussi, de nord et de sud. Et donc, les enfants ne peuvent pas être avec leur maman. La maman est très loin. Et on occupe des autres enfants. Et donc, ça m'avait interpellée énormément. Qu'est-ce que c'est en train de faire, qu'il y ait un transfert d'un certain travail de soins, un certain travail de prise en charge des enfants, qu'on les transfère du sud vers le nord? Parce qu'il y a des employeurs qui font appel à ces femmes migrantes, les femmes migrantes sans papier, parce qu'elles estiment la femme migrante a beaucoup plus mieux les destins familiales, x, y raisons que les employeurs disent qu'elles préfèrent une femme migrante qui prenne en charge leurs enfants. Dans les entretiens que les femmes que j'ai rencontrées, elles ont partagé ça, et ça m'avait touché énormément dans quel monde on vit, qui ont fait appel à cette service en tant qu'employeur, mais surtout quel impact ça donne dans le pays d'origine, que la mère est partie ou les femmes sont parties, qu'est-ce que ça signifie comme conséquence, mais qu'est-ce qu'ici en Belgique on est en train de fabriquer aussi, ou dans le pays du Nord, c'est pas simplement en Belgique, en Allemagne, dans des autres, en France, en Espagne, aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène international qu'on peut observer. Tout, je reviens au point de départ, le changement de la migration. Il faut bien analyser un peu plus global la migration féminine, a changé la nature aussi. Et donc, les femmes sont actrices pour améliorer leur situation, les situations familiales, mais ça donne beaucoup de conséquences. Et les souffrances pour les familles qui sont concernées, mais aussi ça donne un impact au niveau de l'économie internationale, pour moi.
C'est assez important ce que tu dis, parce que donc on est passé d'une immigration d'ouvriers. Et puis, on parle de faire venir les cerveaux des pays du Sud. Et ce qu'on oublie beaucoup, c'est qu'on est en train de faire venir les mères du pays du Sud. Oui. Donc, tout le monde se bat pour que les cerveaux restent dans les pays du Sud. Et on oublie totalement qu'on est en train de faire venir les mères du pays du Sud, et qu'on vide aussi les pays de cette ressource, là. Bon, moi, ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est que L'envoi de revenus du travail des femmes, ça correspond à une somme d'argent qui est aussi de loin supérieure à l'aide à la coopération au développement. Donc ce que vous, par votre travail, vous renvoyez à vos pays, c'est nettement supérieur à ce que la Belgique peut donner comme argent aux pays en voie de développement. Alors, les femmes, elles viennent parce qu'elles pensent vraiment qu'elles ont une perspective d'embauche. Bon, quand on est sans papier, c'est évidemment au noir. Et elles travaillent dans les soins domestiques, les gardes d'enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, ou alors dans le nettoyage, et même, en vous entendant avant l'émission, dans tout ce qui est boulangerie. Alors, moi, Semira et Lydia, j'aurais voulu vous demander quelle activité vous exercez ici en Belgique.
En Belgique, moi, je travaille comme nettoyeur, comme femme de ménage, en faisant le nettoyage dans la maison, parce que ça coûte moins cher. C'est vrai que j'ai retrouvé, il vient de dire que les patrons, c'est plus facile pour eux de ne pas payer les revenus totaux. Ils payent moins, parce que normalement, tu travailles en faisant les nettoyages, pour une heure, ça coûte 8 euros. Mais la différence, c'est tellement atroce que tu dois payer et vivre aussi en Belgique. Tu payes ton loger, tu payes l'électricité, les gaz, et toutes ces charges. Et c'est vrai que c'est tellement difficile, et je vois aussi beaucoup de femmes que c'est mieux de partager un appartement entre 4 enfants pour quand même en essayant d'aider d'une manière ou autre à les familles. Parce que il y a des femmes que je rencontre souvent, des femmes qui sont ici avec seules, et ces enfants, ils sont dans son pays. C'est vrai que ces enfants, ils doivent aller à l'école, ils doivent manger. Et c'est vrai, c'est tellement difficile aujourd'hui. Parce que on voit de plus en plus de femmes dans la rue, dans les métros, dans les bus, de faire ce travail.
Et toi, Semira, qu'est-ce que tu as pu trouver comme occupation en Belgique, dans quelles conditions?
C'est comme il a dit Lydia, c'est la même chose, le nettoyage, garde des personnes âgées aussi. Ça, j'ai fait ce travail aussi. Et c'est vrai, c'est pas comme il a dit 8 euros, mais il y en a qui, vous avez eu de la chance de payer de 8 euros l'heure, mais il y en a qui ont 6 euros, 5 euros. Et oui, c'est vrai, et 6 euros, 5 euros, mais par heure. Il y en a qui travaillent toute la journée pour 25 euros, toute la journée. Et c'est un travail dur, vraiment, un travail dur toute la journée et un travail dur pour 25 euros. Moi, j'avais eu de la chance, j'ai eu de la chance de trouver un petit travail dans le nettoyage. C'est vrai, c'était pas très dur, mais dans les bureaux, j'ai travaillé comme femme de ménage et c'était 7 euros l'heure. Et avec ça que je gagne ma vie, quoi. Que je gagne ma vie avec ce travail de nettoyage. J'ai travaillé aussi dans les boulangeries. C'est difficile d'être sans papier ici. C'est pas facile de vivre à l'étranger, à l'étranger, pas de famille, pas de travail, ou pas de travail, pas de mari, toute seule, une femme toute seule. Elle vient avec beaucoup de, elle vient de son pays avec beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, mais après, il se trouve dans le cauchemar.
On va essayer de souffler un peu et écouter un morceau de musique.
Yeah. Canada.
Bonjour, elles en parlent encore. Nous abordons maintenant notre deuxième partie d'émission. Nous parlions de la migration des femmes et du type de boulot qu'elles peuvent trouver en Belgique quand elles sont sans papier. Et par rapport à ça, j'aurais voulu demander à Gertraud un peu la définition du CAIR.
Oui, très bien. Merci Hélène. En fait, j'avais l'occasion de un peu approfondir ce thème. C'est le CAIR. C'est un terme anglais qui vient to take care of. C'est prendre en charge de quelqu'un. Et il n'y a pas vraiment une traduction en français adéquate à ça. Et dans toutes les recherches sciences sociales et les études européennes, on utilise ce terme. Et c'est tout le travail des soins. Mais le travail des soins est très, très grand. Et donc, moi, j'ai analysé notamment un secteur dans les care qui n'est pas du tout visible. C'est le travail de care à domicile fait par des femmes sans papier, ce qu'on ne voit pas du tout. Et le travail de care englobe vraiment les différentes dimensions. C'est toutes les dimensions relationnelles. On a une relation très proche avec l'employeur souvent parce que c'est un travail d'une personne à une autre et qu'on prend en charge un enfant, une personne adulte. Comme Samira a dit, tu as pris en charge une personne âgée. Et donc, c'est vraiment une relation qui s'installe très proche. Et souvent, on fait, les femmes ont témoigné et on analyse le travail de care aussi, que les émotions, les sentiments sont très, très partie prenante dans ce travail. Et donc, souvent, ça dégage des conditions de travail qui sont très difficiles, qui sont même, c'est très difficile à analyser quand on est dedans, parce que c'est souvent une relation de réciprocité. C'est souvent un don et contre-don qu'on peut dire que pas mal de femmes qui ont raconté m'ont dit qu'elles ont reçu beaucoup de cadeaux. Et c'est comme un salaire. Mais elles n'ont pas voulu recevoir ça. Et donc, il y a des relations qui sont très spéciales. Et parce qu'elles prennent en charge ça vraiment, les enfants, surtout que j'ai interviewé les femmes qui prennent en charge les enfants, c'est une relation d'amour qu'elles développent avec l'enfant. Elle est la maman qui remplace la maman. Et donc, c'est très complexe cette relation de travail et qu'on analyse les conditions de travail. Comme vous avez déjà expliqué ça un peu, pour moi, vous êtes experte aujourd'hui de nous parler beaucoup plus sur votre condition de travail, comment vous avez vécu ces relations avec l'employeur. Voilà.
Lydia, quand on est comme ça employé dans une maison, quel est le lien qui vous lie comme ça à la personne qui vous emploie?
Oh, c'était en commencement, c'est un travail, on dit, en gardant les enfants, on fait la nettoyage. C'est aussi une responsabilité sur les femmes qui travaillent dans ces conditions. Parce que la condition dans les crèches est différente dans les sentiments. Mais quand on est proche de les enfants, tu t'occupes des enfants qui sont à la maison et ses parents, ils s'endorment, ils travaillent. Et c'est un sentiment peut-être de familiarisation avec la famille, mais aussi c'est un peu, c'est pas la responsabilité de s'éduquer à ses enfants, une personne qui travaille avec les enfants. C'est vrai, c'est un plus complexe, comme on vient de dire Gertrude, c'est un sentiment d'attache, aussi c'est un sentiment de responsabilité, c'est un plus complexe quand même.
Tu nous dis qu'il y a quelque chose qui serait proche de l'affection, alors.
On peut dire, oui, c'est proche de l'affection, parce que quand vous travaillez avec les enfants, vous êtes après l'école, vous occupez de leur donner la nourriture, de les préparer un petit sandwich, jusqu'à que les parents, ils arrivent, la mère ou le père, ils arrivent de son travail pour s'occuper de ses enfants. C'est une partie, même tu es dans ce sens, une partie de la famille quand même.
Tu fais partie de la famille, mais on te laisse dans une condition de vie qui est parfois très difficile. Tu n'as pas un salaire normal.
Dans ce sens, les salaires, c'est pas un salaire normal, c'est vrai, parce que le travail, quand même, tu es en affection. Mais il y a un moment, quand les enfants ils tombent malades, c'est à toi de remplacer ces sentiments, de t'occuper. C'est vrai que c'est très, un peu, très dur. Mais les salaires, c'est pas un salaire normal quand on travaille à noir. Mais tu gagnes 400 euros par mois. En gardant peut-être un enfant et aussi en s'occupant de la maison, on fait les nettoyages même dans la maison. Pour moi, c'est un double travail. C'est très dur quand même. Mm-hmm.
400 euros par mois, mm-hmm. parfois moins. Et toi, Samira, je voulais te demander, comment est-ce que les personnes qui t'emploient se comportent avec toi?
Mon premier travail, c'était avec un personne âgée. Oui, j'ai travaillé et nourri logé, ça veut dire interne. Je travaille quatre jours dans la semaine. Et on était deux. Le monsieur, il était malade, handicapé. Mais il était très gentil. C'est un monsieur très, très gentil. Comme il a dit la madame, il était... c'est une grande responsabilité. Parce que les enfants, la famille de la personne âgée, elle te donne une grande responsabilité dans tes mains. Tu dis, voilà, mon père, elle est là. Le médicament et la nourriture, comme elle a dit, tout ça. Vous devez donner le médicament à cette heure-là, mais tu dois savoir à quelle heure il doit prendre les médicaments, à quelle heure il doit manger, même son bain, la douche aussi. J'ai fait ça aussi. C'est moi qui je m'occupe de lui pour qu'il prend pour sa douche. C'est ça. Je suis désolée, je parle très très mal le français, c'est pour ça. voilà. Et c'était. Il a duré ce travail un an. Après ça, j'ai trouvé le travail dans le nettoyage. Le nettoyage, c'est pas comme les enfants ou bien les personnes âgées. C'est autre chose. C'est pas toute la journée. Tu as des heures que tu dois le faire. Alors, tu fais ton travail. Mais ça aussi, il faut bien faire ton travail tu dois bien faire ton travail. Pour que tu gardes ton travail, pour que tu donnes une bonne image pour la femme ou bien pour les étrangers, quoi. Et voilà. Et avec la dame que j'ai travaillé avec elle jusqu'à maintenant, au début, c'était un peu difficile avec moi. Il me connaît pas, je le connais pas. Et je le pardonne parce que elle aussi, elle doit faire ça pour qu'il sache avec qui il travaille, avec qui il travaille. Et c'était des moments difficiles au début, mais après, il y avait de confiance entre nous et on est presque des amis, quoi.
Voilà. Oui, voilà. Je trouve ça très intéressant, Samira, ce que tu viens de dire, parce que c'est aussi tout à fait que dans toutes les recherches et les études qui ont été faites sur ce type de travail et le rôle que les femmes migrantes et surtout les femmes en situation irrégulière, les sans-papiers, que dans le travail des guerres, on a une relation très très complexe, comme vous avez dit, c'est une relation très très complexe, et donc c'est difficile de s'en dégager, de clarifier ça pour que ça devienne une réelle relation de travail, comme quand la personne qu'on prend en charge, ça devient mon ami. Mm-hmm. Donc c'est là que ça devient très difficile quand on n'est plus d'accord avec les conditions de travail, quand on veut négocier un salaire, quand on veut augmenter les salaires, quand on veut diminuer les heures de travail. Et donc, c'est les femmes que j'ai rencontrées, elles m'ont dit toutes, aussi il y a certaines qui ont dit au début, quand elles ont rencontré l'employeur, elles ont un peu négocié les conditions, mais chaque condition, chaque emploi a changé tout le temps. Quand elles étaient engagées comme nounou pour prendre en charge des enfants, elles étaient engagées comme internes, et donc ça veut dire que c'est aussi tous les travaux domestiques, le nettoyage, promener les chiens, laver la voiture, repasser, arroser les plantes. Il y avait un planning, comment il faut traiter quelle plante, à quelle manière. C'est un stress énorme. Et certaines femmes, parmi les 8 femmes que j'ai rencontrées, il y a 2 femmes qui ont dormi dans la chambre de l'enfant parce qu'elles prenaient aussi pour toute la nuit les enfants en charge. Donc chaque 4 heures, elles ont dû se réveiller pour donner à manger au bébé. Et donc, vous avez dit clairement que c'est une énorme responsabilité et ça fait pression que parce qu'on veut bien faire ce travail. Mais, et on veut donner l'amour à cet enfant ou à cette personne âgée, qu'elle se sent bien et que la famille se sent aussi bien, qu'ils ont confiance. Mais on s'est posé souvent la question dans l'entretien, mais est-ce qu'on peut payer ça réellement, un travail d'amour, dans les 11 enfants? Est-ce que quand on a cette relation très proche, est-ce que c'est possible de valoriser ça en termes d'argent? Et par exemple, 400 euros, la jeune femme que j'ai rencontrée dans mon entretien, qui a travaillé en fait 24 heures sur 24 heures, et elle a eu une journée libre, et cette journée libre, c'était qu'un après-midi. C'était pas vraiment une journée. Et donc, elle a reçu 400 euros par mois comme interne. Et pour moi, c'est vraiment des conditions de travail épouvantable et très très difficile, et notamment comme Lydia a dit aussi, quand les femmes migrantes, elles ont aussi des besoins ici, surtout celles qui travaillent après comme externes, elles ont aussi leur propre appartement, et donc ce type de travail ne permet pas vraiment survivre. Il y a le besoin, surtout quand il y a les enfants ou la famille qui attendent que les femmes envoient d'argent à la maison dans leur pays d'origine, et donc c'est très très difficile à gérer cet argent pour subvenir ici en Belgique, mais aussi de pouvoir envoyer d'argent dans les pays d'origine parce que la famille attend, ou l'enfant, il faut payer l'éducation des enfants qui sont restés au pays. Voilà.
Dans ce sens-là, par exemple, les femmes qui sont en Belgique et ces enfants, ils sont dans son pays d'origine. Là-bas, c'est un sentiment, j'avais dit déjà, de culpabilité parce que à un moment donné, la femme, elle voulait être dans les mêmes temps, dans son pays et ici. Et c'est le problème, c'est pour la femme, et aussi le problème, c'est pour le pays d'origine. On avait dit avant que, dernièrement, en Amérique latine, il y a un sentiment dans la société, un changement, qu'il y a beaucoup, il y a plus des familles qui sont en train de se séparer ou faire des divorces, que ça, je peux dire, dans les années 70, 80, ça n'avait pas trop, mais cette année, ce changement socio-économique, pas seulement en Europe, partout le monde, pour partout, ça fait aussi un sentiment à la femme de quitter son pays, parce que c'est une manière, c'est pas bien, mais c'est une manière d'aider à ses enfants, peut-être dans le futur, que ce sont enfants, il a un bon futur, il va à l'école, il fait des formations, des choses comme ça. Dans ce sens-là, les femmes, ils doivent le faire, ils ne doivent pas faire, mais c'est nécessaire pour sortir, parce que la situation économique dans les pays d'origine, c'est pas la même que dans les années 70 ou 80.
Ce qui me frappe, moi, en vous entendant, Gertraud, tu disais que c'était parfois 400, moi j'ai connaissance de quelqu'un où c'était 300 euros par mois, c'est moins cher qu'une crèche privée, Donc, ce qui me frappe, moi, là-dedans, c'est que tout cela, ça, toutes les femmes sans papier prennent en fait le travail de l'État. Donc, les crèches sont fermées à 6 heures. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille plus tard? Quand on a une personne plus âgée malade, si on veut la maintenir à domicile, il y a des aides, bien sûr, par l'État, mais si ça nécessite d'avoir quelqu'un pendant la nuit, c'est pas organisé par l'État ou c'est beaucoup trop cher. Et puis aussi, vous le dites vous-même aussi, vous prenez la place de la maman. Donc, ça veut dire quoi quand la femme travaille, prend des responsabilités dans la vie publique et se met à travailler? C'est une autre femme qui doit venir s'occuper des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de réorganiser la vie de la famille autour d'une répartition des tâches ménagères? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est aussi un peu ce que vous disiez. Nous, on fait ça pour permettre à nos enfants d'être éduqués sur place. Ça donne vraiment l'impression d'un monde un peu fou, je dirais. Mais je vais d'abord vous proposer d'écouter un peu de musique. Elles en parlent encore. Nous abordons maintenant la dernière partie de notre émission. Nous étions en train de parler un petit peu du déficit de l'État belge, qui faisait qu'on était parfois très content de pouvoir engager un sans-papier à la maison pour garder les enfants quand on a un travail atypique, qu'on travaille au-delà de 6 heures du soir, aussi pour nos personnes âgées vieillissantes. Samira, on discutait ensemble du salaire que tu étais payée pour s'occuper de cette personne âgée handicapée, et tu montrais toute l'attention que tu lui portais. On sentait dans ce que tu disais toute l'affection que tu avais, en tout cas l'envie de bien travailler que tu avais dans ton travail. Moi, j'aurais voulu savoir combien tu étais payée pour faire ce travail-là, parce que on est toutes, quand on a une personne vieillissante dans la famille, on sait tous que ça coûte très cher de placer ces personnes en maison de repos.
Oui, pour moi, c'était 600 euros par mois. 600 euros par mois. Et j'ai travaillé 4 jours, pas toute la semaine. Je me souviens, je travaille le samedi, samedi, dimanche, lundi, lundi, mardi, mercredi. Il y a la femme, c'est jour et nuit, hein. Et la femme, il y a une autre femme qui me remplace le 3 jours qui reste dans la semaine. Et c'était 600 euros. Pour moi, c'était mon premier travail ici. Et 600 euros, c'est de l'argent pour moi. Parce que j'ai pas payé je paye pas le loyer. J'étais avec la famille. Je paye pas le loyer. C'était bien pour moi. C'est mon premier travail ici en Europe. Après un mois, j'ai trouvé ce travail. Oui.
Est-ce que tu sais pourquoi la famille a préféré te demander à toi et à une autre personne de garder cette personne?
La famille?
Oui, pourquoi ils ont choisi cette solution-là de faire venir quelqu'un à la maison?
Ah, parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher d'un maison de repos. Ou bien quelqu'un déclaré, quelqu'un qui a ses papiers et le travail déclaré. Ça coûte plus cher que quelqu'un qui sans papier, quelqu'un qui n'a pas de papier. Par exemple, moi, j'ai pas de papier, ça coûte moins cher que quelqu'un qui a ses papiers. Parce que personne qui va accepter de travailler jour et nuit. Avec ces 100 euros, je crois. Je sais pas, c'est... Oui. C'est logique ou pas. Je sais pas.
Oui, je dirais...
Et quelqu'un qui, pardon, qui est célibataire, une femme, il a un maman, on peut pas faire ce travail. Qu'elle a des enfants. Mais ça, c'est plutôt pour les femmes qui sont seules, qui n'ont pas d'un mari, pas d'enfants.
Je trouve ça intéressant, Samira, ce que tu viens de dire, parce que c'est tout à fait aussi le résultat de ma recherche, ce que les femmes ont exprimé, ce qu'on a analysé. En fait, les femmes migrantes sont en train de faire un travail qui, parce que l'État ou la famille ne réussit pas de s'organiser, parce qu'il fallait trouver une solution pour cette mission. Et donc, c'est beaucoup plus facile, comme tu dis, moins cher, mais il y a aussi des services collectifs en Belgique, comme des maisons repos, des institutions ou des crèches pour les enfants. Mais là, l'État n'investit pas assez ou il y a un déficit ici, et donc on fait appel à la femme migrante. Et ce qui m'interpelle dans toute ma recherche, qu'on a discuté aussi souvent, surtout, que bon, les femmes ont cherché les enfants de l'école et ont gardé les enfants même toute la nuit. Mais alors, ou de temps en temps, ils sont restés jusqu'à 8 heures au soir, jusqu'à les parents rentrent à la maison. Et donc, il y a vraiment un déficit des services publics qui ne considèrent pas vraiment le besoin actuel parce que la société a changé. Et donc, c'est la femme migrante qui remplace et qui fait ce travail. C'est que... Et donc, ça se pose des questions vers où on va aller, et notamment les propositions actuelles du gouvernement, c'est que c'est toujours des conditions de travail précaires, très très précaires, que le ministre d'Emploi de Bruxelles en août a proposé que les titres services qui pourrait être aussi à faire extendre à des travail pour les enfants, la prise en charge des enfants. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment à analyser et à chercher qu'est-ce que ça signifie pour la famille migrante, mais aussi pour la société, quelles conséquences ça donne. Mais un autre aspect que je voudrais ici souligner, le fait qu'ont fait les familles, par exemple, font, surtout dans ma recherche, c'est la prise en charge des enfants, qui ont fait appel à la femme migrante parce que, avec x, y raisons, parce que c'est moins cher, parce que la femme migrante a le destin maternel beaucoup plus, le sens de la famille beaucoup plus, x, y raisons, mais aussi, en même temps, le couple qui fait appel à ça ne doit pas s'arranger. Il y a une inégalité dans le couple et donc le mari peut se tout à fait retirer et c'est la femme, souvent la femme qui emploie la femme migrante. Et pour moi, il y a là déjà aussi une énormément inégalité entre femmes qui est interpellante et surtout quel rôle on donne et quelle place on donne à la femme migrante. Et voilà, pour faire ce type de travail... Et souvent, c'est très, très dur, comme vous avez dit, émotionnel, mais très, très dur, et c'est difficile d'en sortir et développer des autres stratégies, des autres types de travail qu'on rêve, beaucoup de femmes rêvent, souvent rester dans le domaine des care, mais travailler dans les crèches ou dans les maisons repos avec des conditions de travail beaucoup plus claires, avec un contrat de travail. Voilà, ça, c'est vraiment des pistes pour moi qui sont en train de, qu'on doit encore beaucoup plus réfléchir et analyser.
Dans ce que tu dis, Gertrude, il y a des choses qui me semblent frappantes. Puisqu'il est plus engagé, plus facile d'engager une personne sans papier pour garder, et beaucoup moins cher, je me dis que ces personnes ne vont jamais engager ces personnes avec un vrai contrat de travail le jour où il y aura une régularisation. Et donc ça, c'est aussi très inégal par rapport aux femmes. C'est que s'il y a une régularisation sur base du travail, ces boulots-là ne vont pas sortir. Parce que personne ne va accepter de payer beaucoup plus cher pour avoir un vrai contrat de travail avec de vraies conditions de travail, avec un horaire, avec un salaire correct.
Tout à fait. Ou c'est là que les femmes migrantes sont coincées. tout à fait ce que tu viens de dire. Ils sont coincés dedans. Et ça, c'est vraiment un grand problème.
C'est aussi interpellant parce que, donc, au lieu d'offrir des conditions de travail adéquates pour tous, j'ai l'impression qu'ils essayent de rendre les personnes qui s'occupent des enfants, même avec papier, plus précaires. Et ils entérinent le fait qu'on n'a pas besoin d'organiser un service collectif de qualité pour l'accueil des enfants. C'est des choses assez particulières par rapport à notre société, à comment elle voit le care, je dirais. Alors, l'émission se termine tout doucement, donc je pense qu'il est important peut-être de terminer avec des revendications. Donc, les revendications, effectivement, par rapport à la régularisation, on a parlé de la tendance actuelle d'une régularisation par le travail, mais donc cette régularisation risque de pénaliser les femmes, parce que des femmes avec enfants risquent de ne pas trouver non plus de place pour garder leur enfant, leur propre enfant, pour pouvoir travailler. Donc, nous, à Vie Féminine, on défend l'idée d'avoir une commission avec des critères clairs et permanents et qui tiennent compte des réalités des femmes, donc sur les attaches durables, sur la longueur de procédure, mais aussi la longueur de séjour, sur des raisons médicales, mais qui pourraient prendre en compte la réalité physique et psychique des femmes qui ont parfois vécu des choses très difficiles, sur l'impossibilité aussi de retour au pays parce qu'elles ont ici connu des conditions de vie, une certaine émancipation qui n'est pas toujours compatible avec un retour au pays. Parfois, elles ont des enfants qui sont belges, donc elles ne peuvent pas les laisser pour rentrer chez elles. Nous avons aussi des procédures par rapport à la procédure d'asile qu'elles tiennent en plus compte de la réalité de vie des femmes. Et puis moi, je voulais vous demander quelles étaient à vous vos revendications pour clôturer. Vas-y, Dia.
Les autres revendications, pour moi, tu as déjà très très bien dit ça, mais l'autre, je sais pas, c'est plutôt pour les deux invités, Lydia et Samira, de rêver ou nous dire aussi les revendications. Je sais pas si vous avez...
Samira, tantôt, tu me disais hors antenne que je te demandais si cette situation de travailler pour des personnes comme ça à domicile, si c'était un rêve en soi et si tu ne préférerais pas travailler dans une maison de repos avec un vrai salaire.
Oui, oui, oui. Ça, c'est mon rêve, de trouver un contrat de travail. Un contrat de travail et pour travailler dans une maison de repos. Et ça, c'est... ce que je souhaite toujours.
On a aussi entendu d'autres types de revendications, comme aussi de pouvoir circuler librement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aiderait, vous, de pouvoir circuler librement, de pouvoir rentrer au pays, revenir librement?
Une fois qu'on a notre séjour légal en Belgique, on peut dire. Oui, c'est un rêve, c'est pas seulement la mienne, c'est de beaucoup de femmes, aussi des familles qui se trouvent dans cette situation. C'est un rêve, espérant que le gouvernement fasse la régularisation dans ce sens que beaucoup de familles habitent déjà pendant 8 ans, 10 ans ici en Belgique, dans une situation précaire et illégale.
Voilà, nous espérons donc tous une régularisation prochaine et nous vous invitons à notre prochaine émission qui aura lieu le 22 mars et qui aura comme thème « Rappeuse, slameuse, qui sont-elles ?». Donc vous êtes bien sur Radio Panique, l'émission Elsa parle encore de Vie Féminine Bruxelles, préparée pour les femmes et pour les femmes. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Dziet po priekšu, braļamā, sapavildamā, locīdamā. Dziet po priekšu, braļamā, sapavildamā, locīdamā. Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore.
tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.